8h30 à Paris. 8h30 en temps universel, merci d'être avec nous. RFI vous informe. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Juan, bonjour à tous. Et un témoignage à la une ce matin, rare témoignage au Mali, de proches d'un jeune homme disparu depuis bientôt 3 mois, depuis que sa route a croisé celle d'une patrouille militaire dans la région de Kaï, dans l'ouest du pays. Dans ce journal également, la RDC et l'ONG Le Congo n'est pas à vendre, qui dénonce une nouvelle fois les conditions de ce qu'on appelle le contrat du siècle passé avec des entreprises chinoises. Les employés locaux débattent militaire française au Sénégal qui tente de se recaser à quelques mois de la fermeture des bases. Et la Libye, où le gouvernement de Tripoli dément avoir proposé aux États-Unis de recevoir des Palestiniens que le président Trump souhaiterait voir expulsés de la bande de Gaza. C'est un scénario qui se répète au Mali. Les opérations antiterroristes de l'armée et de ses alliés russes se transforment parfois, souvent, en disparition forcée et par peur des représailles. Les proches de ces personnes enlevées n'osent pas se plaindre et restent sans nouvelles pendant des semaines, voire des mois. C'est ce contexte qui permet de comprendre la valeur du témoignage recueilli ce matin par David Bachet, celui de la famille de Ladji Tambadou, un jeune commerçant qui réside habituellement au Gabon et qui est disparu depuis le mois de décembre.
Le 8 décembre dernier, de passage pour les vacances dans le village familial de Diangounte Camara, région de Kaï, Ladji Tambadou se rend à un baptême. Sur le chemin du retour, à moto, route de Diéma, il croise une patrouille militaire. La suite, c'est son cousin Mamoudou Sissé qui la raconte.
Il était environ 17h, c'est là où il a croisé les patrouilles de l'armée malienne et ses supplétifs du groupe Wagner. Mais malheureusement, il n'avait pas ses pièces sur lui et ils l'ont embarqué. Quand on est resté jusqu'à un petit peu tard qu'on l'a pas vu, on s'est rapproché du commissariat de Djema et là ils nous ont informé qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient été interpellées et qu'ils ont tous été acheminés vers Bamako.
La famille entame alors une série de démarches pour clarifier la situation et faire libérer Ladji Tambadou.
Son frère est parti au commissariat de Djema avec sa pièce d'identité, son passeport, son billet d'avion, sa carte de résident du Gabon puisqu'il réside au Gabon. Le lendemain matin, il est reparti à Bamako. Il s'est rendu au camp militaire de Kati, au camp numéro 1 à Bamako, au MCA, maison centrale d'arrêt. Tous ces lieux, on lui a dit qu'il n'y était pas. Là, ça fait plus de 3 mois que nous, la famille, on attend. Bon, même s'il est interpellé, qu'ils sont en train de mener des enquêtes, tout ce qu'on veut, c'est de le voir au moins, savoir qu'il est en vie. Mais là, on n'a aucune nouvelle, on ne le voit pas, on ne peut pas le contacter, ni sa mère, personne. Pas d'avocat, rien du tout.
Aucune procédure judiciaire n'a été ouverte contre Ladji Tambadou, détenu dans un lieu inconnu depuis plus de 3 mois. Ses proches prient chaque jour pour le retrouver au plus vite, sain et sauf.
David Bachet, l'actualité en Guinée et ses déclarations du Premier ministre de la Transition. Il promet des élections pour cette année 2025, qui verra donc, selon Baouri, un retour de l'ordre constitutionnel à Conakry, 4 ans après le coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé, le chef du gouvernement guinéen, qui s'est exprimé aussi sur la disparition de Fonike Mangé et Mamadou Biloba, deux figures de la société civile dont on est sans nouvelles depuis maintenant plus de 7 mois. Il assure que cette situation ne sert pas les intérêts du gouvernement guinéen. La République démocratique du Congo se fait-elle avoir, entre guillemets, à Kinshasa? L'ONG Le Congo n'est pas à vendre, a encore des choses à redire sur ce qu'on appelle le contrat du siècle. Ce deal passait du temps de Joseph Kabila avec des entreprises chinoises. Minerais contre infrastructures, contrat déjà renégocié une première fois par Félix Tshisekedi, mais toujours au désavantage des Congolais, estime l'ONG à Kinshasa, Pascal Moulégoua.
Dans ces deals vantés par le gouvernement, l'État percevra 324 millions de dollars chaque année en termes d'infrastructures routières et cela pendant près de 20 ans. Mais ces décaissements sont incertains car il y a une condition, il faut que le prix de la tonne du cuivre soit à au moins 8 000 $. Sinon, l'État recevra moins, voire rien du tout selon la coalition de la société civile, le Congo n'est pas à vendre. Autre problème souligné, si par exemple les prix passaient à 12 000 $ la tonne, la partie congolaise percevra la même somme, c'est-à-dire 324 millions de dollars. Pour que l'État en tire quelques 30% supplémentaires, il faut que la tonne de cuivre dépasse 12 000 $, ce qui n'a jamais été atteint. La coalition évalue à 132 millions de dollars de manque à gagner pour la seule année 2024. Le contrat n'offre aucune garantie selon Babi Matabishi, coordonnateur au centre Carter et membre du Congo n'est pas à vendre.
Tout est fonction du prix du cuivre. Il y a cette volatilité-là et cette incertitude qui ne garantit pas que les 324 millions constituent déjà un acquis.
Et quelle que soit la production qui sera faite, le montant reste égal. Une aberration flagrante selon les auteurs de la note.
Comment vous pouvez comprendre une entreprise qui produit 100 000 tonnes de cuivre, qui paie 324 millions de dollars, le jour où elle va produire 200 000 tonnes, même le jour où elle produit 400 000 tonnes, qu'elle paie le même montant? L'aspect-là n'est pas pris en compte.
Les rapports dénoncent aussi le maintien des exonérations fiscales d'au moins 100 millions de dollars, mais les autorités affirment toujours pouvoir compenser par un volume important d'infrastructures. Pascal Moulegua, Kinshasa, RFI.
Et la politique congolaise, on en parle aussi avec notre invité Afrique ce matin, l'opposant Jean-Marc Kabound, libéré il y a 2 semaines, est visiblement toujours remonté contre le président Félix Tshisekedi. Au micro de Christophe Boisbouvier, il évoque ses propres ambitions présidentielles, mais aussi la possibilité d'un gouvernement d'union nationale. Entretien à réécouter sur RFI.fr. Et à propos de la situation dans l'Est congolais, où le M23, soutenu par le Rwanda, occupe notamment les grandes villes de Goma et de Bukavu, l'envoyé spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs confirme que l'UE prépare des sanctions individuelles en ce moment, des sanctions donc contre des officiels rwandais. RFI 8h36 à Dakar, au Sénégal, où le compte à rebours a commencé avant la fermeture des bases militaires françaises en juillet, du temps qui s'accélère pour les employés sénégalais. Aujourd'hui, l'armée française tente de les mettre en relation avec de potentiels futurs employeurs. Juliette Dubois.
Parmi les secteurs représentés lors de la journée des métiers, le BTP, la logistique, la cuisine ou encore la comptabilité, des cabinets de recrutement seront également présents. Pour les employés de la base, l'espoir est de pouvoir rebondir rapidement avant de se retrouver au chômage en juillet. Elisabeth Ndiaye est agent administratif et travaille depuis 24 ans sur la base.
Depuis 2001, j'ai repris la charge de la maison parce que c'était ma mère. Cette sécurité-là permettait justement de soutenir la famille. Et je dis la famille, là j'ai dit ma famille biologique, mais la famille large. J'espère bien pouvoir trouver une entreprise qui pourra faire parce que c'est impensable que je reste sans travailler.
Mais beaucoup d'autres craignent de ne pas retrouver un travail dans d'aussi bonnes conditions, surtout à l'approche de la retraite.
Nous, on pense plutôt aux jeunes. On s'est dit, tant qu'il y a un jeune qui pourrait décrocher un emploi, la journée serait très bienvenue.
Souleymane Touré est électrotechnicien.
Mais nous n'attendons pas grand-chose de cette journée dans la mesure où 60% de notre effectif a plus de 50 ans. Nos enfants sont à la maison qui cherchent de l'emploi, ils n'arrivent pas à trouver. Donc maintenant, nous, à 50 ans, pensez-vous que nous pouvons trouver quelque chose? On attend de voir.
Les salariés de la base demandent surtout des indemnités de départ à la hauteur de leurs attentes pour rebondir. Ils sont encore en négociation avec leur employeur français. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Au Mozambique, alors que le président Daniel Chapo annonce un dialogue national avec une partie de l'opposition et de la société civile, hier au même moment, son principal opposant, Venancio Mondlane, lui a été empêché de manifester à Maputo. Et d'après l'ONG Plataforma Decide, les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles, blessant 14 personnes. Au Soudan du Sud, le gouvernement reconnaît avoir perdu le contrôle de la localité de Nassir, c'est près de la frontière avec l'Éthiopie, une ville désormais aux mains d'un groupe armé considéré comme proche du vice-président Riek Machar, alors que dans le même temps les arrestations de proches de Riek Machar se sont poursuivies, notamment hier avec celle du ministre du Pétrole. Enfin, en Libye, le gouvernement de Tripoli dément, mais le journal américain Sinker affirme que le premier ministre Abdelhamid Beyba s'est mis en relation avec les États-Unis et a proposé d'accueillir entre 100 000 et 200 000 Palestiniens que Donald Trump souhaiterait voir expulsés de la bande de Gaza. Précision et explication avec Ouda Ibrahim.
Ce sont des allégations qui n'émanent d'aucune voix officielle libyenne, indique le communiqué gouvernemental qui tente de réagir tant bien que mal au tollé produit par cette révélation. Si le gouvernement de Baïba nie son implication officielle, pour beaucoup de Libyens, ce communiqué ne fait que confirmer la réalité. L'opinion publique ne croit pas en la parole des responsables en Libye et l'on se rappelle l'épisode de la rencontre en 2023 à Rome entre la ministre des Affaires étrangères libyenne et son homologue israélien. À l'époque, cette rencontre, qui devait être gardée secrète, avait été révélée par les Israéliens. Dbeiba affirmait alors n'avoir pas été au courant, mais la ministre l'avait accusé en dévoilant que c'était lui qui avait ordonné cette rencontre. Des experts libyens n'hésitent pas à dénoncer l'opportunisme d'un premier ministre par intérim qui serait prêt à tout pour avoir les faveurs de Donald Trump et se maintenir au pouvoir. Il s'agit d'une haute trahison, proteste Ali Al-Soul. Le peuple libyen refuse le transfert des Palestiniens vers quelque pays que ce soit, déclare ce parlementaire.
À Tripoli, il est 10h40 et vous êtes avec Juan Gomez.
Merci.